Mesdames, messieurs, la connaissance de l'histoire ne nous préserve pas du pire.
Les bidonvilles des Trente Glorieuses.
Des images lépreuses de bidonvilles. Pour les filmer, nous ne sommes pas allés dans quelques banlieues de Marrakech ou d'Alger, mais à 3 km à vol d'oiseau de l'Arc de Triomphe de l'Étoile, à Gennevilliers. Nous n'avons rencontré à quelques exceptions près que silence et méfiance. Les hommes qui vivent dans ces conditions n'aiment pas que des étrangers viennent ouvrir leurs plaies et leurs cœurs avec la froide impassibilité d'un bistouri.
Cinq colonnes à la une en 1960. Le vocabulaire officiel d'aujourd'hui parle à Calais du camp de la Lande. Quant au campement illicite, dissimulé dans les replis de la France, il ne serait pas loin de 500, abritant peut-être 20 000 migrants. C'est seulement en 1964 que le vocabulaire législatif a intégré le mot « bidonville ». Mais son premier usage est situé à Casablanca dès les années 1920. Fort répandu en Afrique du Nord, il deviendra de ce côté-ci de la Méditerranée le lot des quelques 10 000 Algériens longtemps entassés à Nanterre. Aujourd'hui, on sait que Calais est parcouru par de nombreux volontaires sillonnés par les journalistes. C'est un laboratoire prêt à exploser de la mondialisation où on parle l'anglais global, le globiche. Nanterre, en revanche, est resté plusieurs années à l'écart. Mais la guerre d'indépendance lui a donné une importance politique nouvelle en faisant une capitale du FLN. Ensuite, au milieu des années 1960, Champigny, bidonville portugais, cette fois attira l'attention par son développement soudain. À ce moment, la population totale des bidonvilles en France atteint 70 000 personnes. En 5 ans, la question de Champigny sera apparemment réglée. Encore 5 autres années, ce sera celle des autres établissements. Il est vrai qu'à la différence d'aujourd'hui, les personnes concernées pouvaient payer un loyer. Mais où ? Dans des lieux beaucoup moins inconfortables, certainement, mais encore ghettoisés. Comme dit la préfète du Pas-de-Calais, démanteler n'est pas une victoire. La victoire, c'est de reloger dignement.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Marie-Claude Blanchaléard, bonjour.
Bonjour.
Qui se tient à un poste d'observation intéressant au carrefour de l'immigration, de la ville, des politiques publiques, et qui publie aux publications de la Sorbonne, En finir avec les bidonvilles. C'est un livre qu'on va trouver sur les étals des librairies. Ça va sûrement être un best-seller. En tout cas, c'est une étude fouillée et qui mérite d'être lue attentivement. On va la trouver dans quelques jours. Il paraît que quand vous avez été candidate à l'université de Nanterre, laquelle s'est dressée au milieu d'un bidonville en 1965, vous avez été candidate beaucoup plus tard, vous avez dit « mais moi je travaille sur les bidonvilles ».
Oui, je l'ai dit et je ne sais pas si ça a influé sur le jury qui m'a élu, mais en tout cas, c'est vrai que dans les années où j'ai enseigné à Nanterre, j'ai beaucoup travaillé sur les bidonvilles de Nanterre, avec la municipalité et avec aussi la bibliothèque de documentation internationale contemporaine, la BDIC, qui se trouve sur le campus et qui a recueilli beaucoup d'archives sur ces bidonvilles.
Et vous êtes allé, grâce à eux, faire des enquêtes orales jusqu'en Algérie, chez des anciens des bidonvilles qui étaient arrivés en France, insistons là-dessus, comme des travailleurs appelés par notre pays pour apporter leur contribution à la reconstruction puis à la croissance.
Oui, le contexte de naissance des bidonvilles des années 50 est tout à fait différent de celui d'aujourd'hui, puisqu'il s'agissait de travailleurs qui, dans la première séquence des bidonvilles, celle des bidonvilles algériens, étaient des travailleurs non pas étrangers, mais des travailleurs français, puisqu'à partir de 1947, le statut permet enfin la pleine citoyenneté aux musulmans d'Algérie, et arrivés en France, officiellement on les désigne comme français musulmans d'Algérie, et ce sont eux qui ne sont pas les seuls à s'installer dans l'habitat précaire et spontané, mais on va s'occuper d'eux essentiellement, et on va à cause d'eux appeler cet habitat précaire, bidonville, puisque c'est le mot qu'on utilisait en Afrique du Nord.
Mais dites-moi, j'aime bien quand vous reprenez le langage des politiques publiques, habitat précaire et spontané. Alors, parlez-nous aussi des autres possibilités d'habitat insalubre dans l'ancien, parce qu'ils arrivent, ces travailleurs, à un moment où le déficit de logement est terrible. D'ailleurs, on les attend aussi pour construire les grands ensembles.
Autre grande différence de contexte, même si aujourd'hui on a à nouveau une crise du logement social, à l'époque, c'est véritablement la France de l'après-guerre, la France qui a à son actif un siècle de taudis, la France des mal logés, la France des sans logis, l'appel de l'abbé Pierre est en 1954, et donc et il y a encore des lambeaux de la zone autour de Paris. Donc effectivement, si on a cette ce développement des bidonvilles algériens, c'est parce que les hôtels taudis dans lesquels vivent les Algériens sont pleins, et c'est une des formes de la crise du logement, une crise du logement pour les travailleurs immigrés.
Donc le choix, un témoin de 5 colonnes à une, la première émission qui se soit un peu intéressée au bidonville en 1960, c'est entre Garni et bidonville.
Et pour trouver un logement, vous avez trouvé facilement ?
Non, pas facilement. J'en ai trouvé, mais quand je me présente et avec la couleur que j'ai, on me la refuse.
Parce que vous êtes algérien ?
Oui, c'est ça.
Où logez-vous finalement ?
Où logez-vous ? Je me loge toujours avec mes compatriotes au bidonville. Il y a même des garnis où ils sont à 4-5. Tout ça, c'est pas bien. Un ouvrier, un homme seul, qui se couche avec un homme comme lui, dans un lit, c'est pas bien.
Et vous, monsieur, depuis combien de temps habitez-vous au bidonville ?
Oh, 3 ans. Un an, j'étais dans un hôtel de la 18e.
Un hôtel ?
Oui. On était à 4, on paye chaque mois chacun 20 000 francs. Chaque mois chacun 20 000 francs.
Pourquoi vous n'êtes pas resté là ?
Parce que c'est trop cher.
Vous préférez le bidonville au fond ?
Ben oui.
Et le choix, c'est entre une municipalité communiste ou une autre municipalité communiste. Si on suit le fil de Nanterre, le plus grand bidonville algérien, c'est une ville communiste avec en plus beaucoup d'espace libre.
Oui, municipalité communiste, on peut dire que ça va presque de soi, même s'il faut pas être trop schématique, mais les ouvriers travaillent dans des industries qui sont installées dans des communes ouvrières, surtout des grandes communes comme Nanterre, qui se trouvent dans la boucle de la Seine, et donc il y a de la place, il y a des terrains vagues, et on est à côté des zones d'emploi. Hein.
Alors à Nanterre, on avait déjà installé le dépôt de mendicité. Plus tard, on installera l'université où vous avez enseigné. Et le bidonville, il n'est pas un Nanterre. En fait, il y en a plusieurs.
Exactement. On a à peu près une dizaine de bidonvilles, avec plus ou moins importants. Les deux plus importants étant le bidonville des Pâquerettes, qui se trouve au nord, justement pas loin de la maison de mendicité. Et puis le bidonville de la Garenne, que l'on a souvent appelé le bidonville de la folie, puisqu'il y avait la station de chemin de fer de la folie, qui était aussi d'ailleurs la station de l'université.
L'université qui va venir plus tard, là on l'est encore, à la fin des années 50, au tout début des années 1960, où on va arriver à 10 000 habitants. Les municipalités communistes, prenant toujours le cas de celle de Nanterre, savent aussi se servir de cette présence qu'ils n'ont pas vraiment souhaitée, des bidonvilles comme d'un levier. Vous racontez que c'est comme ça que Nanterre peut être candidate à la préfecture est devenue préfecture des Hauts-de-Seine.
Oui, puisque c'est assez intéressant, mais les habitants des bidonvilles sont comptabilisés dans la population de la ville. Et donc, ce n'est pas d'ailleurs le seul avantage que la municipalité peut tirer de cette présence, parce que effectivement, à partir du moment où l'État met en place une politique de résorption, eh bien, la municipalité, arguant des difficultés qu'elle a avec sa population, population en habitat précaire, eh bien, a plus d'avantages pour son office HLM, enfin, etc.
Le maire de Nanterre, monsieur Barbet, le camarade Barbet, est quand même réputé pour être attentif, être à l'écoute des habitants des bidonvilles. Il est vrai que le danger est là à chaque instant.
On a vécu des années très très dures. Pour les enfants, pour nous, pour la sécurité, tout ça, on avait peur. Quand il éclate un feu, on ne sait jamais. Moi, des fois, je passais toute la nuit à surveiller s'il n'y a pas de feu ou quelque chose. Au début, on avait des cuisinières à charbon. C'est après qu'il y a eu les poêles à mazout, là, qu'il y a eu beaucoup d'accidents, parce que des fois, les se bouche et tout ça, puis d'un seul coup, le feu part. Quand il y a le feu, c'est les paras qui sont tous avec du papier goudronné et tout ça. Si le feu déclare, il y avait une seule sortie pour des centaines. Alors, on n'avait pas de téléphone pour téléphoner aux pompiers ou quelque chose.
Et cette boue? Et la boue? Là.
Ouais, c'est la pluie qui a fait ça, mais on ne peut rien y faire. Hein. C'est un destin qui nous est fixé de vivre dans cette boue en ce moment.
Pourquoi un destin comme ça?
Puisque les autorités françaises ne veulent pas nous aider. Comment voulez-vous qu'on y fasse quelque chose? Alors on vit dedans, on marche, et puis on se dit, ce soir, on cirera nos chaussures.
Témoignage d'anciens du bidonville de Nanterre, là-bas si j'y suis, et 16 millions de jeunes. Quand vous avez fait de l'enquête orale auprès des anciens, notamment en Algérie, qu'est-ce qu'ils vous ont dit de la période de la guerre d'Algérie? Parce que l'installation du bidonville coïncide avec l'accélération de la guerre d'Algérie, et l'enjeu colonial doit être extrêmement présent.
Ah ben... Évidemment. D'ailleurs, sans même aller jusqu'à nos témoins, c'est vrai que le livre d'Obrahim Ben Aïcha, Vivre au paradis, raconte très bien le vécu des enfants. Comme le disait le témoin, c'est la terreur permanente. Alors c'est vrai, il y a la terreur permanente du feu, hein, avec des incendies qui sont très fréquents, mais aussi du quatrillage par les forces de police qui viennent tous les jours, des gens qui sont brutalisés, et puis aussi très vite, quand on décide de la politique de résorption, de la brigade Z, qui est une brigade spécialisée pour empêcher les gens d'améliorer leur baraque de façon à ce que ils ne s'installent pas et que on puisse résorber beaucoup plus facilement.
C'est-à-dire que si quelqu'un construit quelque chose de neuf, ils détruisent.
Ils détruisent. Et souvent les gens, par exemple, mettaient un peu de ciment par terre, et puis recouvrant que la brigade Z arrivait et qu'il l'entendait, il me remettait de la terre dessus de façon à pouvoir se protéger.
Il y a un superbe témoignage de Monique Hervaux, vous citez souvent, la grande assistante sociale de Nanterre, où on voit Omar, dont les papiers d'identité ont été déchirés et jetés dans la boue à la lumière d'une lampe à pétrole. Il les lave soigneusement et les reconstitue.
Et oui. Alors, c'est vrai que cette période des bidonvilles algériens pendant la guerre d'Algérie, c'est une période que on peut assez mal imaginer nous aujourd'hui, parce que là, par exemple, ce qui se passe à Calais, c'est terrible, mais tout est soutenu par des associations, etc. Là, vous avez cité Monique Hervaux, mais c'était rarissime les gens qui étaient susceptibles d'aider les gens des bidonvilles. Et elle s'était vraiment établie dans le bidonville de la Garenne, où elle participait à aider le FLN, et donc c'était, on va dire, une aide clandestine et illégale.
Mais le FLN, dit Monique Hervaux, faisait aussi régner sa peur à sa façon. C'était au FLN qu'il fallait demander l'autorisation pour se déplacer son logement d'une baraque à l'autre, et le FLN a aussi forcé les habitants du bidonville à aller à la grande manif de 1961,
oui.
Où ils ont
ça,
été.
Ça, justement, Brahim Ben Aïcha le raconte très bien. Il explique que, un jour, dans une demi-nuit, tout le monde est obligé de sortir, on ne sait pas pourquoi, avec les femmes, les enfants. Et je voudrais dire aussi que parmi nos témoins qu'on a interrogés dans le Souf en Algérie, qui habitaient dans le bidonville des Pâquerettes, eh bien, il y en a qui nous ont raconté que le premier jour qu'il arrive dans le bidonville, il voit un type qui est assassiné devant lui parce qu'il avait bu de l'alcool. Hein, donc c'était ça aussi, indiscutablement.
Nous arrivons ainsi au début des années 1960, et voilà que surgit, on suit le film chronologique toujours avec vous, Marie-Claude Blanchaléa, le bidonville portugais de Champigny. Et là, c'est autre chose dans le recrutement. Salazar n'aime pas que les Portugais quittent son territoire, mais Georges Pompidou, Premier ministre, puis Président de la République, ne déteste pas que les Portugais arrivent en France.
Oui. On entre dans une autre histoire, hein, parce que la première histoire, c'était vraiment l'idée de résorber le bidonville. C'était une opération en partie policière, pas seulement, on y reviendra. Mais là, on est vraiment dans la France où tous les grands ensembles se développent et où les bidonvilles, vous l'avez dit tout à l'heure, logent 75 000 personnes. Celui de Champigny fait 15 000 personnes. Et c'est vrai que même si les Algériens restent très nombreux, les Portugais sont les plus nombreux. Et en fait, c'est tout à fait emblématique de la politique d'immigration de l'époque. Parce que à l'époque, les immigrés sont là comme travailleurs. C'est-à-dire que tout en étant mal vus, ils sont moins illégitimes que les immigrés d'aujourd'hui. Mais leur mode d'arrivée, qui devait être régulé par l'Office national de l'immigration, est en fait a complètement explosé. Et comme on a besoin de beaucoup de travailleurs, on ne s'occupe plus de l'ONI et à la limite, l'illégalité, on la préfère. Et du coup, les Portugais sont particulièrement bienvenus parce que du fait que Salazar ne respecte pas les accords qui ont pourtant été conclus avec la France, ils viennent illégalement à Salto en traversant l'Espagne. Et cette illégalité les conduit directement au bidonville. Et quelque part, eh bien, ça arrange les employeurs qui n'ont pas à loger. Et d'autre part, ça arrange aussi, les hautes autorités qui sont très contents, comme Georges Pompidou, de pouvoir bénéficier encore de la dernière immigration européenne.
Georges Pompidou, Premier ministre à partir de 62. Nous sommes donc au début des années 60. Vous avez donné les vrais chiffres, hein, parce que ce qu'on va entendre ici par la voix de la Harissa, qui mixte son propos avec Linda de Souza, ils sont un petit peu exagérés.
À ma mère que tout va bien, mon père l'embrasse de Paris. Je t'écris d'un bidonville, 400 000 portugais parqués. Autant de rats, les enfants ici sont effrayés. Pour ces raisons, avant de t'accueillir le petit et toi, il va falloir attendre un peu, mais du travail j'en ai déjà. Les HLM accueillent les étrangers d'ex-colonies en priorité. Les portugais, eux, n'y ont pas accès. Voilà, tu comprends pourquoi il va falloir attendre dans cette odilla, même pas l'eau en guise de veste et un seau. Avec mon père, d'ici la fin de l'année, on pense pouvoir vous faire venir, toi et maman, en France, le temps qu'on puisse mettre une somme de côté pour acheter, même petit, ça nous suffira. Et puis par la suite, on verra les gens des baraques, c'est comme ça qu'ils nous appellent. Je t'embrasse, mais ouais, mort, vite, envoie-moi de tes nouvelles.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Comment en finir avec les bidonvilles? C'est le titre d'un livre que vous faites paraître dans peu de jours aux publications de la Sorbonne, Marie-Claude Blanc-Chaléard. Comment en finir quand en plus il y a des Portugais qui se mettent en tête d'acheter des lopins de terre? Alors, un ancien Premier ministre, on a parlé de Georges Pompidou qui lui a succédé, surgit, Michel Debré, déterminé avec des idées simples. On va décider d'expropriation expéditive et démanteler très vite. C'est la loi Debré, 1964.
Oui, alors cette loi Debré s'est présentée de façon peut-être un peu moins simple que ce que vous exposez, mais l'idée c'était effectivement de trouver un moyen d'accélérer les résorptions. Et effectivement, dans ces questions de bidonville, eh bien, comme dans toutes les résorptions d'habitat insalubre, se pose le problème de la propriété. Et il fallait trouver des méthodes expéditives pour essayer non seulement de s'en prendre aux propriétés et puis de s'en prendre aussi à ceux qui faisaient du profit avec la location de leur terrain. Et du coup, un certain nombre de dispositions de la loi Debré proposent cela. Mais derrière la loi, qui marque une version non coloniale de l'histoire des résorptions, il y a aussi des politiques de résorption. Et ces politiques de résorption, elle suppose des constructions, elle suppose des recensements, et c'est là que sont les premiers recensements. Et donc, on a en place un certain nombre d'instruments dont le principal reste celui qui a été inventé pour les Algériens, à savoir la Sonacotra, qui vont permettre les résorptions.
La Sonacotra qui s'occupe de foyers puis qui devient un opérateur d'HLM peu à peu. Dites-moi, les opérations de résorption, on voit qu'elles ne sont pas possibles après la loi Debré, même si elles réussissent chez les Portugais de Champigny au bout de 5 ans, sans, comme dit M. Bidonville de l'époque, Marc Roberini, un petit peu de poigne.
Ah ben de toute façon, les résorptions se font dans la violence et avec à cette époque encore l'idée que il faut prendre les gens de court. Hein, parce que si on n'y va pas avec de grosses forces de police en les impressionnant très vite, eh bien, on n'arrive pas à raser tout le bidonville, les gens risquent de revenir. Ou alors à Champigny, par exemple, on avait pris l'option de déstructurer le bidonville en s'attaquant d'abord à sa partie centrale. Mais c'est vrai que on a les méthodes algériennes qui sont toujours derrière, et les Portugais sont très surpris, ils résistent, et pour les aider dans leur résistance, eh bien, il y a maintenant des citoyens.
Oui, parce que M. Roberini fait face à ATD Carmonde, qui est sa bête noire. Il y a beaucoup de militants chrétiens de gauche. Il y a aussi des militants franchement révolutionnaires. Et là, on revient à Nanterre, où on a eu l'idée d'installer l'université en 65 au milieu du bidonville de la folie. C'est assez drôle ce qui se passe en 1968. Les produits de Fauchon, place de la Madeleine, qui avaient été prélevés révolutionnairement, et aussi une tonne de pommes de terre empruntées au restaurant universitaire sont déversées dans le bidonville de Nanterre par les militants de Vive la Révolution ou d'autres.
Oui, ça c'est ce qu'a rapporté Monique Hervault dans son journal. Ça n'a pas eu, bien sûr, l'écoute médiatique qui a été faite avec l'opération de Fauchon, qui avait justement un but de médiatisation. Mais Monique, ça c'était avant les mouvements de 68, et Monique Hervault se fait la porte-parole des Algériens qui avaient été extrêmement humilié de ce déversement des pommes de terre comme si c'était des pauvres malheureux, et il disait mais nous on a de quoi manger, c'est pas ce qu'on demande.
Néanmoins, la misère des bidonvilles, l'exploitation des travailleurs immigrés sont devenus un sujet national.
Dans la nuit du 1er au 2 janvier, 5 travailleurs africains meurent asphyxiés dans un taudis d'Aubervilliers. À la suite de ce drame pour les uns, de ce scandale pour les autres, une journée de manifestation. Occupation symbolique du Centre National du Patronat Français par un groupe d'intellectuels et de jeunes dits gauchistes.
Comme tous, à part les négriers, mais je considère que les négriers ne sont pas seuls coupables.
Le même jour, l'un de ces foyers est occupé à Ivry. Prévu il y a 4 ans pour accueillir 150 personnes, aujourd'hui, plus de 600 travailleurs noirs, originaires du Mali, de la Haute-Volta ou du Sénégal, s'y entassent. Le maire d'Ivry explique.
Cette installation s'est faite dans des conditions scandaleuses et sans consultation de la municipalité.
On vous l'a imposé, quoi.
C'est ça. Lorsque nous sommes trouvés devant le fait accompli, nous avons protesté, bien entendu, contre cette installation.
Alors, au siège du CNPF, toute l'extrême gauche était là, de Sartre, qu'on a entendu, à Maurice Clavel. Chez les communistes, M. Gosna, le camarade Gosna, le maire d'Ivry, on sent quand même qu'il commence à être gêné par la présence de trop nombreux étrangers. Il y a une évolution peu à peu chez les communistes. Autant les chrétiens de gauche sont constants de leur soutien, mais ils sont pas face aux contradictions de la gestion, autant les communistes s'interrogent.
Eh bien, il faut dire que là, on n'a pas le temps de revenir sur l'événement de 1970 qui a été très important pour déclencher la dernière phase de résorption des bidonvilles, qui a été celle qui a été véritablement efficace. Mais cette dernière phase de résorption, elle appelle une conséquence, c'est-à-dire que les immigrés dont tout le monde pensait que ils allaient s'en aller un jour ou l'autre des bidonvilles, ben, ils sont censés rester et être relogés. Et la plupart souhaitent être relogés installés dans les municipalités où ils vivent, et c'est-à-dire beaucoup des municipalités communistes qui, par-dessus le marché, commencent à avoir des difficultés en ce qui concerne leurs revenus, parce que la désindustrialisation les prive d'une partie de leurs sources de financement. Donc il y a toujours eu depuis le début une protestation par rapport à l'État gaulliste ou celui de Pompidou, mais là, cette protestation devient véritablement un peu une situation d'urgence, et effectivement ça explique l'attitude du maire d'Ivry. Cela dit, il faudra quand même voir qu'au bout du compte, ce sont toujours ces municipalités communistes qui accueilleront le plus de déguerpies, entre guillemets, des bidonvilles.
On est toujours dans ce jeu complexe entre les gaullistes et les communistes dans la Ve République. Vous êtes en train de dire, Marie-Claude Balkhéléar, que le premier ministre de l'époque, le gaulliste plutôt de gauche, Jacques Chaban-Delmas, informé par beaucoup de chrétiens sociaux dans son cabinet, a beau jeu de dire:
il faut que la population tout entière de notre pays sache qu'elle doit participer à cette croisade contre la misère des bidonvilles. Il faut qu'elle admette que ceux qui vivent, si l'on ose dire vivre dans de pareilles conditions, Français ou travailleurs étrangers, sont des hommes, sont des femmes comme les autres, et qu'il ne saurait être question dans un pays comme la France de leur refuser de vivre au milieu de la population jusque-là mieux pourvue. Ainsi, l'esprit du 18 juin 1940 sera respecté, et la France, qui a su se libérer, qui a su gagner une guerre par les armes, aura remporté sur elle-même une autre victoire en remportant le combat contre la pauvreté, contre la misère, contre l'insalubrité, la maladie et tous les vices qui s'y attachent. Asnières aura donné l'exemple. Vive la France !
Asnières et les autres villes, il y en a visité beaucoup en banlieue, Jacques Chaban-Delmas. Alors comment dirait-on aujourd'hui, c'est facile pour le maire de Bordeaux de dire comment doivent se régler les problèmes de la France pauvre. C'est vrai que ça a été efficace, la politique de Chaban et de son ministre Vivien.
Qu'on doit retenir, à mon avis, dans son discours, c'est cette histoire de victoire sur la pauvreté. En fait, à l'époque, le bidonville est emblématique, c'est le territoire urbain de la pauvreté, et vaincre les bidonvilles, vaincre aussi les taudis des villes, etc., c'est vaincre la pauvreté. Et inversement, donner aux gens un bon logement, un logement confortable, il faut quand même toujours avoir en tête cette crise du logement avec laquelle on a commencé. Eh bien, c'est le symbole la solution des problèmes sociaux. Et donc, on a eu cette illusion, on n'a pas eu le temps de parler de la politique du relogement, des cités de transit, etc. Mais il y a derrière toutes les formes de relogement, pour excuser les violences des résorptions, cette idée que on allait loger les gens correctement, et que de les loger correctement, ça les intégrerait de facto.
Ce qui ne s'est
évidemment pas produit.
C'est donc une leçon que vous donnez à la préfète du Pas-de-Calais, si on est capable de lui donner des leçons, démanteler. Ce n'est pas une victoire. La victoire, c'est de reloger dignement, mais une fois qu'on a relogé dignement, où a-t-on relogé ? Votre livre, Marie-Claude Blanchaléar, dans les librairies dans peu de jours, publication de la Sorbonne, En finir avec les bidonvilles. L'émission était réalisée par Jacques Sigal, avec la technique Fabrice Desmaz. Je me trompe toujours avec son nom, c'est devenu un jeu. C'est comme avec votre nom, Madame Blanchaléar.